Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour à tous et à toutes. Que se cache-t-il au centre de la Terre ? Très longtemps, nous avons concédé cette partie du globe au dieu Pluton, Hadès, Lucifer. Civilisation grecque, romaine ou religion chrétienne, les hommes ont qualifié le centre de la Terre d'enfer, où le feu règne en maître et où il ne fait pas bon y séjourner. Très longtemps donc, on a pensé que c'était le feu qui habitait le centre de la Terre et qu'il était habité par les damnés. Aujourd'hui, nos connaissances ont un peu évolué sur ce sujet, mais cela ne fait que 80 ans que nous savons de quoi est constitué le noyau terrestre. Alors pour cet éclairage scientifique sur le noyau terrestre, donc, Canal Académie a le plaisir de recevoir Jean-Paul Poirier. Jean-Paul Poirier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à Canal Académie pour cet éclairage. Vous êtes membre de l'Académie des sciences dans la section des sciences de l'univers. Vous êtes physicien émérite à l'Institut de physique du globe de Paris et vous avez consacré une partie de votre carrière à l'étude de la physique du manteau inférieur et du noyau. C'est donc en toute légitimité que vous allez pouvoir nous expliquer de quoi est constitué ce fameux noyau terrestre, quelles sont ses propriétés, quelle température il y fait, son impact sur la rotation même de la Terre. Mais avant d'évoquer ces sujets techniques, je vous propose de revenir sur les différentes hypothèses qui ont été faites sur le noyau terrestre au cours des siècles. C'est la communication que vous avez faite il y a maintenant peut-être 2 semaines, où vous avez pu nous parler en tout cas à vos pairs, du noyau terrestre selon les siècles, quelle vision les chercheurs, les scientifiques avaient. Et alors, avec cette question primordiale, est-ce qu'il existe ou non un feu central ? Au départ, c'était ça, cette question.
Alors voilà, bien sûr, c'est le problème essentiel. Pendant très longtemps, d'ailleurs, ça a été le problème essentiel. Qu'est-ce qu'il y a au centre de la Terre ? Ben, c'est très loin, on ne le sait pas. La taille de la Terre, on la connaissait quand même depuis un bon moment. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? On ne peut pas y pénétrer très loin. Même depuis longtemps, Buffon le dit, et d'autres l'ont dit avant lui et après lui, les puits de mine les plus profonds ne descendent qu'à quelques, à l'époque, de quelques, à peine quelques kilomètres. Ça, c'était les très 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 profonds. Et voilà, et ça ne représente une égratignure à la surface du globe. Maintenant même, encore, le forage le plus profond qui a été fait en Russie, dans la péninsule de Kola, atteint une douzaine de kilomètres. C'est encore une égratignure. Donc le centre de la Terre était mystérieux. Mais il y avait quelque chose. Il y avait les volcans. Il y avait les volcans qui crachaient du feu, disait-on. Alors du feu, des flammes, les volcans crachaient du feu. Pas tous, mais beaucoup. Et ça laissait penser qu'il y avait du feu à l'intérieur de la Terre, bien sûr, puisque les volcans étaient des espèces de soupapes de l'intérieur de la Terre. D'un autre côté, on savait, et ça aussi depuis longtemps, que la température augmente quand on s'enfonce dans la Terre. Il fait chaud dans les mines profondes, etc. Donc on dit que c'est assez normal. Il doit y avoir dans les régions inaccessibles, là où s'alimentent les volcans, il doit y avoir du feu. C'était le fameux feu central. Alors ça, c'était une vieille idée. Et ça collait très bien avec ce qu'on trouvait dans les Écritures, où on disait que les damnés brûleraient dans un feu éternel, etc. Donc, assez logiquement, on mettait l'enfer au centre de la Terre.
Donc c'était ce que disait par exemple saint Thomas d'Aquin.
Alors, saint Thomas d'Aquin, parce qu'il y avait quand même un problème, et saint Thomas d'Aquin, qui n'était pas sot, bien sûr, comme on n'était pas au XIIIe siècle, avait réfléchi à la question et disait, bon voilà, il y a des gens qui disent que le feu au centre de la Terre n'est pas, c'est un feu un peu métaphorique, c'est un feu, c'est une figure de pensée, que ce n'est pas le feu que nous connaissons comme dans une cheminée avec des flammes.
C'est symbolique.
Et après avoir discuté assez longuement, Thomas d'Aquin dit, non, non, c'est vraiment un feu réel, c'est un feu réel. Alors ça marchait assez bien, il y a eu des gens qui quand même discutaient un peu de ça, et même jusqu'au XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait par exemple un théologien anglais qui s'appelait Swindon, et qui disait, mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que d'une part, pour qu'il y ait du feu au centre de la Terre, il faudrait qu'il y ait des flammes, et ça, il n'y a pas d'air.
Il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène.
Donc, le feu ne pourrait pas t'alimenter. Et ça, d'ailleurs, ce n'est pas lui qui l'avait inventé. On le disait déjà, Gassendi déjà le disait longtemps avant. Il faut des flammes. Bon, et puis, D'autre part, le centre de la Terre, même si c'est grand, c'est quand même relativement petit, si on considère le nombre considérable de damnés qu'il doit y avoir depuis la création de l'humanité. Donc, il n'y a pas la place. Alors, il y a un endroit où il y a du feu, où il y a la place, c'est le soleil. Et donc, l'enfer, ça serait pas mal que ça soit dans le soleil. C'est beaucoup plus logique. Alors, ça a été discuté, et en particulier, un dominicain vénitien, le Père Patuzzi, a consacré un livre à discuter ce qui avait été écrit par Swinden dans un livre, d'ailleurs.
Il a fait des calculs, c'est ça?
Alors, il a fait des petits calculs de place, etc., de combien de places devait tenir un damné, ou etc. Il a trouvé que finalement, il n'y avait pas de problème.
Il y avait assez de place pour tout le monde?
Il y avait assez de place pour tout le monde, et peut-être encore de la place en rab. Bon, mais il avait dit une chose qui n'était pas sotte non plus. Il avait dit, mais oui, mais ce problème du feu, c'est pas ça, parce que c'est sans doute pas un feu avec des flammes, mais de la matière fondue, comme du plomb fondu. Ça, c'est pas bête, parce que, effectivement, maintenant, on en est là.
Bah oui, c'est ça. C'est ce que disait aussi Buffon.
Alors, Buffon, lui, voyait les choses un petit peu autrement. Buffon discutait, et Buffon était un grand savant, hein, qui avait fait des expériences intéressantes, sur le refroidissement de la Terre en particulier. Et Buffon, dans sa théorie de la Terre, voyait la Terre comme homogène. Il voyait, c'était de la matière vitrifiée, et c'était complètement homogène. Alors ça correspond à l'époque du XVIIe, XVIIIe siècle, oui. XVIIIe siècle, où on avait complètement refusé l'idée du feu avec des flammes. Et donc, les gens, à ce moment-là, disaient, d'accord, c'est pas raisonnable, le feu. Buffon le disait aussi, mais c'était pas le premier. Pour entretenir un feu, il faut de l'air. Et l'air ne peut pas pénétrer assez profondément dans la terre. Donc, il est vraisemblable qu'il n'y a pas de feu dans la terre. Et que, mon Dieu, ces phénomènes qu'on voit, c'est relativement superficiel. D'un autre côté, il regardait les différentes roches, les différents minéraux qu'on peut trouver. Il disait, il est vraisemblable que la Terre, dans toute sa profondeur, c'est une roche vitrifiée et qui n'a plus de petits grains, de choses qu'on connaît, mais il la voyait ça comme parfaitement homogène. Bon, alors ça a été l'idée qu'effectivement, il n'y avait plus tellement de feu. Mais cependant, le feu avec des flammes était mort, on n'en parlait plus. Mais quand même, il restait ce problème troublant de la chaleur qui augmentait, de la température qui augmentait quand on s'enfonçait dans la terre. Et un minéralogiste, qui est bien connu des minéralogistes, qui s'appelait Cordier, qui était professeur à l'école des mines, au tout début du 19e siècle, avait fait des observations sérieuses. Il avait documenté l'augmentation de la température quand on s'enfonce dans la terre en faisant des mesures dans les puits, dans tout ce qu'on pouvait trouver de plus profond. Il avait trouvé que ça augmentait. C'était le fameux degré géothermique qu'on a appris à l'école, c'était de l'ordre de 30 degrés par kilomètre. Et alors, il regardait jusqu'où il avait pu aller, dans les mines les plus profondes, et puis il faisait une extrapolation. Alors, extrapolation hardie, bien sûr, mais il extrapolait jusqu'à la profondeur du centre de la Terre, qu'on connaissait à peu près, et il disait, il doit y avoir maintenant dans les profondeurs quelque chose comme 250 000 degrés. Et ça, alors, à cette température-là, tout est liquide, tout est fondu, voilà.
Et c'est à ce moment-là, alors, que viennent se percuter la théorie solidiste et la théorie fluidiste?
Alors, ça s'est arrivé à peu près à ce moment-là, effectivement. Le problème, c'était de dire, d'une part, il y avait cette idée-là, et les volcans, et d'autre part, des gens qui disaient, non, ce n'est pas possible parce que, d'abord, la Terre, en se refroidissant, pourrait, par exemple, Poisson, qui était un grand physicien et un grand mathématicien, disait, la Terre, en se refroidissant, commence par se cristalliser, par se solidifier vers le centre, parce que il savait bien que, pour la plupart, pour la majorité des corps, sauf la glace, par exemple, le point de fusion augmente avec la pression. Donc, il est clair que c'est là, lorsque la pression augmente, pour une température donnée, on peut solidifier. Il y a deux façons de solidifier, si vous voulez. Une façon qui est d'abaisser la température et l'autre façon qui est d'augmenter la pression à température constante. Donc, Et puis, alors, au fur et à mesure que ça se solidifie à partir du centre, on va évacuer la chaleur en surface jusqu'au moment où on arrive au rayon de la Terre actuelle. Oui. Et à ce moment-là, elle est complètement solidifiée et elle a perdu essentiellement toute sa chaleur. Alors, et il expliquait le fait que la température augmente dans la Terre quand on s'enfonce en disant, ben voilà, c'est que quand la Terre traverse des espaces au cours de son parcours dans l'espace intersidéral, quand il y a des endroits qui sont plus chauds que d'autres, parce que il y a les rayons des étoiles se concentrent, enfin quelque chose d'un peu farfelu, mais donc la Terre à ce moment-là accumule de la chaleur, et puis après ça, quand elle passe dans un endroit qui est plus frais, elle la restitue, et donc ça expliquait assez bien les choses. Donc l'idée là, c'était que la Terre était solide et dans l'ensemble plus ou moins refroidie.
Il faut attendre 1906 pour pouvoir voir.
Oui, enfin, pas vraiment. Vous allez un peu vite là.
On va y aller doucement. On revient un petit peu en arrière.
On va y aller doucement. Bon, et donc à cette époque-là, il y avait des Anglais, en particulier Hopkins, qui avaient fait un petit peu la même chose, mais en fait de façon un peu plus subtile, parce qu'il regardait, lui, des mouvements de la Terre, les phénomènes astronomiques, en particulier la fameuse précession des équinoxes, qui veut dire que l'axe des pôles de la Terre décrit un cône avec une période de l'ordre de 26 000 ans dans l'espace, et que ça, eh bien, on peut calculer, on connaît les observations, et on peut calculer en mécanique, on peut calculer si ça marche avec une structure de Terre donnée.
Vous voulez savoir si la Terre au centre est solide, ou liquide, ou fluide,
etc. Voilà, ouais, donc ça ne donne pas les mêmes résultats. Et il avait dit que peut-être il y avait plusieurs scénarios possibles, suivant des cas qu'il ne connaissait pas, mais enfin, qu'il pouvait avoir solide en surface, et puis après ça liquide, et puis solide au fond. Bon. Mais dans l'ensemble, l'idée que vers une assez grande profondeur, c'était solide. Et alors c'est là qu'on en arrive à ces fameux solidistes ou fluidistes, dont vous retrouvez un écho à cette époque-là, et même plus tard, parce que ça a duré très longtemps, mais dans Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert, au moment où ces deux autodidactes essayent de s'instruire en géologie, en géophysique, alors il y en a un qui croit aux fluidistes, l'autre aux solidistes, et c'est assez bien raconté. Bon, vous avez évidemment, ça c'est la tarte à la crème, mais c'est longtemps après, le voyage au centre de la Terre, où encore une fois, les hypothèses des fluidistes et des solidistes sont racontées, ou bien on s'enfonce et la température n'augmente pas tellement, ou bien on tombe dans le feu. Bon. Alors, et ça c'est un petit peu, ça c'est mélangé un petit peu sans totalement se confondre avec une autre querelle importante qu'il y avait à l'époque, qui était la querelle des géologues. C'était entre les Neptuniens et les Plutoniens. Les Plutoniens qui disaient beaucoup de roches sont venues en fusion et puis se sont cristallisées à la surface de la Terre. Et les Neptuniens, qui étaient d'ailleurs plus anciens, c'était la théorie un peu plus contre laquelle se battaient les Plutoniens, les Neptuniens avec l'allemand Werner. Ils disent, non, tout s'est fait par précipitation dans l'eau, enfin dans les océans, etc. Mmh. Donc toutes les roches étaient essentiellement sédimentaires, alors que les Plutoniens voyaient des roches ignées aussi. Bon. L'origine des basaltes, du granit, a été comme ça sujette à controverse. Donc vous voyez que les deux, d'un côté il y avait quand même le problème du feu, et de l'autre côté, disons, on n'en a pas besoin, on peut s'en passer.
Donc ça, c'était pour les thèses géologiques, on va dire.
Ça, voilà, absolument. Et mais ça collait assez bien. Les gens pouvaient se classer d'un côté ou de l'autre.
Et il faut attendre alors d'avoir des résultats en sismologie
vous allez encore bien vite. Vous allez encore bien vite. Bon, parce que la sismologie n'est arrivée vraiment que vers la fin du siècle, du 19e siècle. Mais avant ce temps-là, c'est la mécanique céleste qui a pris le relais. Un peu à la suite de Hopkins, des gens, des mécaniciens célestes, comme par exemple Kelvin, calculait un peu mieux que Hopkins, enfin un peu plus précisément, calculait les possibilités d'avoir une Terre fluide à l'intérieur et de voir si ça collait avec les observations à la fois de l'aplatissement et puis de la précession des équinoxes. Et il avait aussi un argument contre, Kelvin a été le chef de file vraiment des solidistes, il avait un argument contre la fluidité interne, parce que parmi les fluidistes, il y avait des gens qui disaient « mais le globe est complètement de la matière fondue avec une mince croûte, une croûte de quelques lieues, enfin de quelques centaines, peut-être même centaines de lieues, mais ça n'allait pas très loin. » Alors Kelvin disait non, ça ne peut pas marcher, parce que regardez les marées océaniques. Les marées océaniques sont dues à l'attraction de la Lune et du Soleil et tirent l'eau plus que la Terre. La Terre est tirée, il y a des marées terrestres, on le sait, mais enfin c'est peu de choses. Oui. Alors les marées océaniques, donc il y a un mouvement relatif de l'océan par rapport à la Terre. Il dit, mais si la Terre était complètement fluide à l'intérieur, avec une masse coquille, elle serait déformée très facilement par l'attraction. Donc, elle serait déformée presque autant que l'océan liquide.
Le
résultat, c'est qu'on ne verrait pas de mouvement différentiel. On ne verrait pas la différence et on ne verrait pas des marées océaniques. Donc ça, c'était un de ses arguments assez forts. L'autre argument, c'était de dire, mais attention, là, il reprenait la théorie du refroidissement de Fourier, qui avait parfaitement calculé le refroidissement d'un corps par conduction, et il disait, mais si la Terre se refroidit, la température peut augmenter très vite vers la surface, quand on rentre à l'intérieur, et puis assez vite, ça va s'arrêter d'augmenter comme ça. En d'autres termes, les extrapolations qu'on fait n'ont aucun sens. Mm-hmm. Bon, parce que pendant peut-être une dizaine, une centaine de kilomètres, ça va augmenter assez vite, et puis après ça, ça va aller beaucoup plus lentement. Donc on n'aura pas du tout ces 200 000 degrés à l'intérieur.
250 000 degrés, ce n'est pas possible.
C'est pas possible. Donc voilà l'attitude de Kelvin, et il voyait la Terre, lui aussi, il ne voyait pas nécessité d'avoir un noyau. Et tout ça, on raisonne toujours dans une Terre homogène. Bon. De toute façon, c'était homogène d'ailleurs. Ou bien la Terre avait été, puisqu'on pensait que la Terre avait été fluide au début, non, avec l'hypothèse de... Bon. Alors ou bien elle était restée fluide en grande partie, auquel cas elle était homogène, ou bien elle était refroidie complètement, auquel cas elle était homogène aussi.
On avance à tâtons, en fait. Hein.
Jusque vers le milieu du 19e siècle, il n'y a pas de raison de penser qu'il y a un noyau, vraiment, comme nous le voyons maintenant, c'est-à-dire une région parfaitement identifiable vers le centre de la Terre, qui ne tient pas toute la place et qui est de propriétés différentes. Bon, alors nous en arrivons à quelqu'un qui s'appelle Roche, Édouard Roche, et qui était né à Montpellier. Il a fait toute sa carrière à Montpellier, il y est mort.
Et, il était académicien
Alors, il était correspondant. C'était un astronome, essentiellement. Et il aurait, s'il avait vécu quelques mois de plus, ou une année de plus, il aurait sans doute été élu membre, mais il est mort avant. Bon, on en parlait au moment où il est mort. Et c'était un provincial, donc il était correspondant. Et on peut voir son portrait sur le site de l'Académie. Là,
vous faites bien de le préciser.
Son portrait est là, c'était un portrait d'un jeune homme. Et Roche est très connu des astronomes. On parle des lobes de Roche, de la limite de Roche, qui est la limite à laquelle, par exemple, un satellite peut s'approcher d'une planète sans être complètement désintégré par les forces de marée. C'est Roche qui aussi avait trouvé le premier, l'avait dit le premier, que l'anneau de Saturne, c'était des petites poussières, des petites particules qui ne s'étaient pas agrégées. Et alors Roche avait eu l'idée de, ce qui ne c'était pas lui qui l'avait inventé non plus, mais enfin il avait fait les calculs, pour regarder, trouver une loi de densité à l'intérieur de la Terre, toujours avec l'idée que la Terre pouvait être homogène, et savoir comment la densité augmentait à l'intérieur de la Terre. Alors pour ça, eh bien, il faut confronter les calculs avec les observations, et qu'est-ce qu'on a comme observation? Eh bien comme observation, on a que on connaît la densité moyenne de la Terre, parce que Cavendish, à la fin du XVIIIe siècle, avait calculé la constante de gravitation. Donc, on connaît...
Qui est
La constante de gravitation, c'est le grand G qui est...
D'accord.
On ne peut pas donner le chiffre. Bon, et qui permet de mettre dans la loi de Newton. Bon. Mm-hmm. Et donc, connaissant cette constante de gravitation et la valeur de la pesanteur à la surface terrestre, on pouvait calculer la densité moyenne de la Terre. La densité moyenne de la Terre qui est de l'ordre de 5,5 par rapport à l'eau, si vous voulez.
Bon. D'accord.
Mais on sait que la densité des roches en surface, eh bien, elle est beaucoup plus faible. Même les roches, le granit, c'est de l'ordre de 2,7. Bon, donc c'est deux fois plus petit. Donc pour ça, il faut donc qu'il y ait une densité plus forte vers l'intérieur. Alors, une des façons d'avoir une densité plus forte, c'est de comprimer avec la pression. Bon, l'autre point, c'était l'aplatissement de la Terre.
Vous vous souvenez
que l'aplatissement, on en avait beaucoup discuté au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle encore. L'idée que la Terre avait été fluide au départ, eh bien, en faisant tourner, ça aplatissait vers les pôles. Ça, c'était ce que pensait Newton. Mais il fallait pour ça vérifier et on n'était pas complètement sûr. Et il y a eu deux expéditions envoyées par l'Académie des sciences. Une au Pérou, qui est maintenant l'Équateur d'ailleurs, et l'autre vers les pôles, vers le cercle polaire, l'une qui était dirigée par Bouguer et la Condamine au Pérou, et l'autre par Maupertuis et Clairaut et Celsius, l'homme du degré Celsius, qui était en Suède, en Laponie. Et les deux expéditions, avec des valeurs un tout petit peu différentes, m'ont bien montré que le degré de latitude, la variation du degré de latitude, était différente quand on était au pôle ou à l'équateur. Elle était plus grande au pôle qu'à l'équateur. Donc, en mesurant la longueur, C'était très difficile, mais ils avaient des chiffres qui montraient clairement que la Terre était effectivement aplatie. Donc la valeur de l'aplatissement, qu'on connaît maintenant, c'est de l'ordre de 1 sur 298, cette valeur de l'aplatissement est une valeur observée. Et puis, il y avait encore autre chose, c'était quelque chose que devait préserver la loi de densité à l'intérieur de la Terre, c'était la fameuse équation de Clairaut, qui avait, lui, toujours dans une Terre prétendument homogène, avait regardé quel devrait être l'aplatissement, si vous voulez, l'ellipticité, oui, à des profondeurs différentes, compte tenu de la densité. Donc ça, c'est lié par une équation, etc. Donc tout ça devait marcher ensemble. Et Roche avait fait des valeurs, avait trouvé des valeurs tout à fait raisonnables. Et puis, vers 1848...
Donc en 1848...
Voilà, il avait fait ses calculs et ça marchait bien, avec des valeurs de l'aplatissement qui étaient de l'ordre de 1 sur 300 à peu près. Et puis, vers 1881, il y a des gens qui ont refait des valeurs de l'aplatissement. Bon, il s'est trouvé que ces valeurs étaient trop fortes. Bon, mais bon, ils ne pouvaient pas le savoir. Alors, en refaisant ces calculs, ils disaient que ça ne marche plus du tout. Mm-hmm. Donc, mes hypothèses ne marchent plus. Et à ce moment-là, il a eu cette idée géniale de dire, bon, alors, je vais essayer de recommencer, mais en prenant une autre structure de la Terre. C'est-à-dire, je vais prendre, alors je vais vous citer exactement ce qu'il a dit. Il y a donc lieu de reprendre ces recherches. Alors, si cet aplatissement est supérieur à 1 sur 296, comme il paraît résulter des plus récentes déterminations, l'accord n'existe plus.
Donc, qui a dit ça ?
Roche.
Roche. Roche, voilà. Toujours Roche.
Alors, et je continue la citation. Il y a donc lieu de reprendre ces recherches dans une hypothèse différente. Par exemple, en considérant le globe comme formé d'un noyau ou bloc solide, à peu près homogène, recouvert d'une couche légère, dont la densité, d'après des considérations géologiques, peut être estimée à 3 par rapport à l'eau. Vous voyez, là, déjà, c'est le début de l'idée d'un noyau. Alors, le noyau est solide, là, c'est plus ce qu'on pense maintenant, mais enfin, peu importe, l'idée d'un noyau est, qui est identifiable et qui est d'une densité bien supérieure à celle de la surface. Voilà. Donc ça lui marchait pas mal. Et il a fait ça dans une note à l'Académie de Montpellier, à l'Académie des sciences de Montpellier, qu'il a d'ailleurs repris dans une note au compte-rendu, mais sans détailler les calculs, à l'Académie des sciences.
On marque une courte pause, Jean-Paul Poirier. On se retrouve tout de suite après pour continuer sur les découvertes ou les recherches de Roche. À tout de suite.
Florence Delay de l'Académie française sur Canal Académie. Elle aurait pu nous parler de civilisation hispanique ou de cinéma. Elle fut Jeanne d'Arc à l'écran. Non, elle a choisi de rendre hommage à un homme hors du commun, l'évêque Daniel Peyseril. Écoutez Florence Delay dans l'émission Au fil des pages sur Canal Académie.
Suite de notre éclairage sur le noyau terrestre en compagnie de Jean-Paul Poirier, membre de l'Académie des sciences et puis physicien émérite à l'Institut de physique du globe de Paris. Jean-Paul Poirier, on vient de terminer sur Roche qui avait déjà l'idée d'un noyau terrestre, ce qu'on n'avait pas encore jusqu'à présent. Alors, est-ce que nous pourrions reprendre cette conversation avec Roche ?
D'accord. Alors donc, il avait, après tous ses calculs, il a trouvé la constitution du globe, dit-il. Voici quelle serait la constitution du globe. Un bloc, donc c'est-à-dire ce fameux noyau, dont la densité est de 7 à 7,5, recouvert d'une couche de densité 3, dont l'épaisseur égale 1 sixième du rayon terrestre. Ça fait à peu près 1100 km. Hein. Le bloc terrestre est donc pour le poids spécifique, analogue au fer météoritique, tandis que la couche qui l'enveloppe est comparable aux aérolithes de nature pierreuse, où le fer n'entre qu'en faible proportion. Donc voilà, on commence à parler du noyau en fer, solide, hein, mais...
Voilà, bon, et ça, un noyau en fer.
Voilà, et ça, c'est par comparaison aux météorites, vous voyez.
Bon. Oui.
Et donc ça, c'était en 1881, vous voyez qu'on est tard. Et ça a été le premier à dire ça, contrairement à ce qu'on raconte toujours dans tous les livres de classe, même les textbooks pour les étudiants. On parle de Wichert, qui était professeur à Göttingen, et qui, quand il était jeune à Königsberg, avait fait à peu près la même chose, mais d'accord, 15 ans après.
Oui, donc pour rendre à César ce qui est à César, c'est Roche qui a dit ça en premier.
Voilà. Et les deux se retrouvent avec des modèles de Terre, avec des hypothèses de calcul très, très semblables, et des modèles de Terre très, très, très semblables, à un petit poil près. Alors, nous sommes donc maintenant vers la fin, tout à fait la fin du 19e siècle. Là, il commence, la sismologie commence.
Voilà, la fameuse année 1906.
Alors déjà, on commençait à avoir écouter les tremblements de terre de loin et à calculer un petit peu comment les raies, c'est-à-dire les ondes sonores, pouvaient se propager depuis le foyer du tremblement de terre à travers les différentes profondeurs dans le globe jusqu'à un endroit où on écoutait les tremblements de terre. Et ça, c'était la première détection d'un tel séisme, ça a été en 1889, à Potsdam. Donc vous voyez que c'est tout à fait vers la fin du siècle. Et alors, un sismologue anglais qui s'appelait Oldham, en 1906, c'est-à-dire il y a exactement 100 ans, a vu que les ondes sonores, les ondes émises par les tremblements de terre, eh bien, à partir d'une certaine distance de l'origine, c'est-à-dire du foyer, la vitesse de la seconde phase des ondes sismiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant les ondes S, les ondes de cisaillement, eh bien, décroissait de quelques, depuis 6 km jusqu'à 4 km et demi. Donc il a expliqué ça en disant ben, il doit y avoir une région, là, une zone, et qui pourrait être, mais alors qui était beaucoup plus petite que la zone de Roche et de Wishart, où ça se propage avec des vitesses différentes. Et alors là, c'est assez amusant de voir que bon, ces fameuses ondes S, en principe, ne se propagent pas dans le noyau, parce que le noyau est liquide et que les ondes de cisaillement ne se propagent pas dans un liquide. On ne peut pas couper au couteau un liquide,
oui,
ça n'a pas de sens.
Bon. Tout à fait.
Donc, on ne peut pas cisailler un liquide. Mais il a identifié cette région. Et cette région, donc, contrairement à ce qu'on raconte aussi, on n'a pas identifié parce que les ondes S ne s'y propageaient pas, mais il pensait qu'elles s'y propageaient, mais il a quand même identifié la région. Bon, donc, il n'a pas parlé de liquide, mais il a dit que ça pourrait l'être.
Ça pourrait l'être.
Voilà. Et puis, c'est Gutenberg, un grand sismologue, qui, alors lui, en 1912, a localisé ce qu'on appelle la frontière noyau-manteau, qu'on appelle aussi quelquefois la discontinuité de Gutenberg, à la profondeur qui est maintenant acceptée à un poil près, c'est-à-dire à peu près 2900 km. Vous voyez que c'est maintenant beaucoup plus petit que le noyau de Roche et de Wishart. Mais, encore une fois, c'était pas l'idée qu'il pouvait être plus dense, l'idée qu'il était en fer, tout ça, ça marchait bien, mais qu'il était liquide, on n'en parlait pas tellement. Et c'est en 1926, c'est-à-dire il y a 80 ans, que le grand géophysicien anglais Harold Jeffreys, qui était à Cambridge, a montré que si on regardait les valeurs de la rigidité du manteau et du noyau, avec des mesures, encore une fois, un petit peu de marée terrestre, de choses comme ça, eh bien, ça ne marchait pas, ça ne collait pas avec les mesures qu'on pouvait déduire de la sismologie, des mesures de vitesse, des mesures de rigidité.
Oui.
La vitesse étant liée à la rigidité. Eh bien, ça ne marchait que si on admettait que la rigidité du noyau était pratiquement nulle. Et la rigidité, si elle est nulle, ça veut dire que c'est un fluide. Et donc, c'est Jeffreys qui, le premier, dit « Il ne semble pas y avoir de raison de dénier, il l'a dit en anglais, il ne semble pas y avoir de raison de dénier que le noyau métallique de la Terre est véritablement fluide. »
Et fluide.
Alors là, maintenant, on en arrive à peu près à ce que nous connaissons, c'est-à-dire un noyau fluide qui commence, qui a un rayon et qui s'arrête à peu près à 2900 km de la surface. Et alors, il y avait une fameuse zone d'ombre, cette zone d'ombre où on ne voyait pas les... Parce que les ondes sonores se propagent un peu comme des ondes lumineuses dans un milieu réfringent.
Oui.
Et donc, on peut calculer et tout ça. Et on voit qu'à partir d'une certaine distance, il y a une fameuse zone d'ombre où on ne peut pas entendre un tremblement de terre. Et la sismologue danoise, Inge Lehmann, qui est d'ailleurs morte il y a assez peu de temps, à l'âge de 103 ans... Les sismologues vivent vieux, hein. Jeffreys est mort très vieux aussi. Bon. Mais Inge Lehmann a trouvé quelque chose dans cette zone d'ombre. Et elle a dit, ça peut venir de ce qu'il y a encore autre chose à l'intérieur de ce noyau, de ce noyau fluide et une autre région que nous appelons maintenant la graine.
La graine.
Voilà. Alors, cette fameuse graine, bon, ben, alors, il a fallu attendre encore 10 ans pour montrer qu'elle avait, en étudiant les vitesses toujours, qu'elle avait un module de cisaillement fini. Donc, elle était solide.
Alors, on a le manteau, le noyau qui est liquide,
et
encore,
graine,
à l'intérieur de ce liquide,
la
une graine solide.
Mais alors, graine solide qui est également en fer, là, mais en fer solide. Bon, ceci dit, c'était pas encore évident que ça, le fer, ça paraissait logique, de bon sens, mais il n'y avait pas vraiment de preuves. Et c'est vers 1900, dans les années 50, que Francis Birch, qui faisait des expériences à très haute pression à Harvard, a montré qu'il était impossible que d'avoir autre chose que du fer pour avoir la bonne densité à la bonne pression.
Oui, et puis en même temps, ça dépend aussi le champ magnétique en dépend.
Alors, il y avait l'idée que le champ magnétique, qu'il fallait que le noyau soit conducteur. Bon, mais il y avait des gens qui disaient, oui, mais il se pourrait qu'à très haute pression, il y a des transformations de phase et que les silicates deviennent conducteurs, par exemple. C'était pas complètement exclu.
D'accord.
Birch a éliminé tout ça. Donc maintenant, nous en sommes à l'idée, le noyau est liquide, c'est essentiellement du fer. Alors, essentiellement du fer, avec un petit peu de nickel, bon, de l'ordre de quelques pourcents, mais ça ne change pas grand-chose. Et il faut quand même, pour que la densité colle avec les mesures de vitesse sismique, il faut qu'il soit un petit peu moins dense que le fer à haute pression. Alors, on a maintenant des expériences à haute pression. On peut dire des choses raisonnables sur l'équation d'état du fer. Et on sait que ça ne marche pas à quelques dizaines de pourcents.
Oui.
Bon, donc il faut avoir quelques éléments légers. Bon, alors pour alléger un peu l'ensemble. Bon, alors lesquels ? Bah ça, on se dispute toujours un petit peu. Hein. C'est pas clair parce qu'on peut pas y aller y voir. Donc, est-ce que c'est du soufre ? Ça serait pas idiot. Est-ce que c'est du silicium ? Ça serait pas idiot non plus. Mais les deux ensemble ne marchent pas. Est-ce que c'est de l'oxygène ? Bon, et puis finalement, c'est probablement que c'est un peu tout à la fois, que c'est un mélange un petit peu, mais dans quelle proportion ? Bon, c'est
ça,
pas encore.
Pas.
C'est un des points où on n'est pas encore bien fixé. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a ce noyau ? Donc il est fluide, et il est même très fluide. Parce que là, on peut raisonnablement penser que la viscosité du fer n'est pas très différente de ce qu'elle est à la pression ambiante. C'est-à-dire que le point, c'est d'être près du point de fusion.
Oui.
Et que, quelle que soit la valeur du point de fusion, la viscosité près du point de fusion reste à peu près la même. Et n'importe qui a vu une coulée de fonte dans une aciérie voit que ça coule presque comme de l'eau.
À quelle température est ce fameux noyau ?
Alors, la température, c'est assez difficile à trouver. C'est encore un des points sur lesquels les gens se disputent.
Mm-hmm.
Bon, il y a deux façons de faire. D'une façon, c'est d'arriver en prolongeant les températures qu'on connaît depuis la surface, avec des arguments plus ou moins différents, d'arriver à la frontière noyau-manteau. Oui, mais là, il peut y avoir un saut. Il y a un saut, forcément. Donc, on n'est pas très avancé, parce qu'il faudrait savoir de combien est ce saut. L'autre façon, c'est de dire, eh bien, comme maintenant on sait que la graine est solide, que c'est du fer solide, il faudrait trouver la température de solidification du fer à cette pression-là. Bon, ou de fusion, ce qui revient presque au même. Bon, et donc, l'idée, ça a été de faire des expériences à très haute pression, maintenant qu'on sait faire, dans des cellules en clume de diamant,
de
etc.
De refaire, en fait, les conditions,
et d'essayer de retrouver quelle est la température de fusion du fer quand on a des pressions qui sont de cet ordre-là, ce qu'on n'arrive pas encore vraiment à faire de façon bien convaincante, mais on peut arriver assez loin, on peut arriver à l'ordre du dépasser le mégabar. Le mégabar, c'est le million d'atmosphères. Le million de pression atmosphérique, et ce million de pression atmosphérique, ça correspond à peu près, 1,3 million, correspond à peu près à la frontière noyau-manteau. Donc on peut presque arriver là, pas jusqu'à la graine encore de façon bien sérieuse. Mais si on arrive là, eh bien on pourrait essayer d'extrapoler. Alors là, il y a eu des expérimentateurs qui ont essayé de faire ça, et puis qui ont des différences de l'ordre du millier de degrés, parce que c'est pas clair, c'est très difficile. Bon, alors moi j'avais essayé de faire autre chose, c'est de le calculer à partir d'une théorie de dislocation, etc., qui marche bien pour un certain nombre de métaux. Et là, avec des données, j'étais arrivé à une valeur de l'ordre de points de fusion, de l'ordre de 6000.
Alors, Kelvin.
6000 degrés Kelvin, c'est-à-dire le degré Celsius plus 273. Quand on arrive à des milliers, 273, ça compte pas beaucoup. Et alors, oui, mais là, ça ne donne pas encore la température. Ça donne le point de fusion du fer, si on y croit, et ça se trouve à peu près au milieu maintenant des estimations, donc je commence à y croire. Mais si on y croit, ça donne la température de cristallisation du fer pur, mais il n'est pas pur. Et on sait que quand on a un alliage, une cristallisation, eh bien la température de fusion change. On sait très bien, par exemple, que pour abaisser la température de fusion de la glace, eh bien on y met du sel dedans. Hein.
Oui.
Bon, donc c'est pareil. Avec tous les éléments légers qu'il y a, ça doit faire baisser la température. Et là encore, c'est un problème de combien ? Eh bien là, on ne sait pas vraiment. On pense que c'est peut-être de l'ordre du millier de degrés. Donc l'idée qui tourne avec une approximation de plus ou moins, disons, 500 degrés. Hein. L'idée, c'est que la température à la frontière de la graine et du noyau, c'est de l'ordre de 5000 ou 5500 degrés K, c'est-à-dire de l'ordre entre 5 et 6000, si vous voulez, degrés. Voilà. Ça, c'est une température tout à fait raisonnable et je pense que maintenant, on arrivera peut-être à aller un peu plus loin. Mais enfin, quand on dit 5000, on n'est pas loin du compte. Voilà.
Une autre petite question qui peut paraître toute simple, mais que beaucoup de personnes et moi-même peuvent se poser, c'est savoir finalement pourquoi au centre de la Terre, il y a une telle température.
Ah, mais alors pourquoi ? Eh bien, c'est que la Terre, quand même, a été formée par accrétion de petites planétésimales, et qui, chaque fois en arrivant là-dessus, c'est comme une énorme météorite qui arrive, ça dépose une quantité d'énergie considérable. Donc ça, suffisamment pour fondre la Terre, peut-être pas complètement, mais en grande partie, ce qui a permis d'ailleurs au fer de décanter et d'aller au centre, puisqu'il était évidemment plus dense, et oui, d'aller au centre. Et puis, donc, maintenant, au centre de la Terre, eh bien, le fer est là, il est encore très chaud, il ne s'est pas complètement refroidi, et la température du centre de la Terre vient essentiellement de la température primordiale de fer fondu qui n'est pas encore refroidi puisqu'il est fondu.
Oui. Hein,
la graine continue d'augmenter, hein. Pas vite, mais elle continue d'augmenter.
Donc un jour, le noyau sera solide, enfin le noyau, la graine prendra
solide.
La place du noyau. Ah, bah
absolument,
en fait.
C'est pas tout de suite. Hein. Peut-être qu'à la vitesse où ça va, peut-être qu'il y aura eu des problèmes avec le soleil avant ça. Bon. Mais enfin, bon, c'est possible. Alors, dans le reste de la Terre, la chaleur vient de la radioactivité, bien entendu. Donc il y a ce problème de l'évacuation de la chaleur primitive du noyau et de la chaleur radioactive, mais qui est essentiellement dans le manteau. Il y en a probablement assez peu dans le noyau. Voilà. Et alors, évidemment, on arrive à la température et diminue au fur et à mesure qu'on arrive vers la surface pour arriver jusqu'à une température douce que nous avons en surface.
Oui. Alors, pour parler de la Terre plus en général, le champ magnétique terrestre dépend en partie aussi du noyau.
Ah, mais dépend pas en partie, il dépend totalement du noyau. C'est là qu'il est créé. Alors, c'est un problème très, très compliqué. On le connaît qualitativement, on sait à peu près ce qui se passe. C'est-à-dire que le noyau étant fluide et métallique, c'est-à-dire donc conducteur, il y a des courants fluides qui circulent dans un champ magnétique aussi. Donc, il y a une espèce de renforcement. Bon, oui. Et c'est un effet, c'est ce qu'on appelle la géodynamo, parce que c'est un effet dynamo. Un conducteur électrique qu'on fait déplacer dans un champ magnétique engendre un champ magnétique. Donc, cette géodynamo, on sait bien, en principe, comment ça marche. Elle est auto-entretenue et on a fait des petits modèles de laboratoire qui montrent qu'une dynamo, effectivement, peut être auto-entretenue, c'est-à-dire qu'on renvoie le courant dans les bobines qui recrée un champ magnétique, qui renvoie, etc. Ça oblige à, si on veut le comprendre mathématiquement, si vous voulez, physiquement, ça obligerait à résoudre à des systèmes d'équations extrêmement difficiles, des équations sur le mouvement de la viscosité, avec ça, donc c'est la fameuse équation de Navier-Stokes, des équations d'électromagnétisme, des équations, etc. Donc c'est extrêmement difficile. Il y a la simulation aide, mais encore une fois, c'est pas parfait parce qu'on est obligé pour simuler de faire des hypothèses qui sont sans doute pas les bonnes. Et il y a des gens qui essayent maintenant de faire des dynamos expérimentales avec des métaux liquides, du sodium liquide. Par exemple, à Grenoble, l'équipe essaye de faire des dynamos dans du sodium liquide. Et il y en a d'autres, une ou deux autres en Europe. Oui.
Je vois un résultat assez surprenant. C'est une source qui vient du site internet des élèves que vous avez pu rencontrer lors de vos conférences, notamment à Lyon. Ils font part d'un résultat surprenant sur les inversions magnétiques, puisque alors de manière apparemment aléatoire, si on prend une période d'un million d'années, dans ces 5 millions d'années, 5 fois, le champ terrestre va s'inverser. Le pôle nord passe au pôle sud et inversement.
Oui. Oui, alors ça justement, ça c'est une des propriétés de cette géodynamo, c'est qu'elle est capable de s'inverser. Alors, ce n'est pas une périodicité vraiment, parce qu'il y a des grands espaces de temps où il ne se passe pas grand-chose, et puis quelquefois ça se change vite, et puis ça revient. Bon, et ça, cette inversion du champ magnétique terrestre, c'est une des propriétés qu'on essaye de retrouver justement dans les modèles de dynamo qui sont faits. Il y a certains modèles de simulation qui arrivent à le faire, mais enfin, encore une fois, ça c'est un fait d'observation. On sait que ça peut se faire, mais pour l'instant, on n'est pas arrivé encore vraiment à dire, ben voilà, j'ai ce modèle de dynamo qui a avec les propriétés réelles, physiques, correctes, et qui me donne en plus des inversions comme je voudrais. Donc on arrive quelquefois à faire un petit peu l'un, mais pas toujours tout ensemble. Quoi.
Mais est-ce que concrètement ça voudrait dire que quand on prend une boussole, sur une période donnée, au bout d'un moment on a le nord qui s'inverse et le sud qui s'inverse?
Ben oui, bien sûr. Mais seulement ça, enfin, en général, on n'a pas la chance d'être là pour le voir juste au moment où ça se passe.
Et c'est sur une longue durée en plus.
Ça peut prendre un petit moment, mais les paléomagnéticiens étudient ça en regardant le magnétisme des roches, par exemple des laves comme des basaltes, contiennent toujours un petit peu de magnétite, de pierre d'aimant, si vous voulez, de cristal d'aimant. Et quand il se solidifie, la magnétite enregistre le champ terrestre d'une époque. Donc, en reprenant ça, et en regardant comment ça évolue, c'est comme ça qu'on a déterminé justement ces inversions. Hein, autrement, on ne le saurait pas, parce qu'on n'est pas là. Et ces inversions, on peut voir que, alors, c'est pas encore très clair comment ça se passe, il est assez vraisemblable que ça ne se bascule pas d'un coup comme ça, mais il est vraisemblable que le champ commence à diminuer un petit peu, et puis retourner dans l'autre sens, mais il reste toujours une partie du champ qui n'est pas juste le champ qui de la boussole, quoi. Et donc ça, c'est encore un sujet d'étude. Comment se passe une inversion, combien de temps ça dure, etc. C'est un sujet d'étude pour les paléomagnéticiens, bien sûr.
Alors, justement, qu'est-ce qu'il nous reste-t-il à découvrir sur ce noyau et sur cette graine? Est-ce qu'on sait tout maintenant?
Non, bien sûr que non, bien sûr que non. D'abord parce que c'est loin et que les éléments sont difficiles à recueillir. La graine, maintenant, les sismologues arrivent à trouver de plus en plus de choses qui les intriguent. Par exemple, qu'il y a une anisotropie de vitesse, que la vitesse n'est pas là tout à fait la même dans toutes les directions. D'où ça vient? De quel phénomène de cristallisation? Est-ce qu'elle tourne un peu plus vite que le manteau? Est-ce qu'il y a cette fameuse superrotation de la graine? Bref, il y a beaucoup de problèmes maintenant qui sont liés, et puis tous ces problèmes qui ne sont toujours pas réglés, de savoir quels sont les éléments légers dans le manteau, comment ça joue sur la convection, quelle est la source essentielle de convection, si c'est vraiment la chaleur ou si c'est le fait qu'il y a ces éléments légers qui diffusent. Bref, il y a encore énormément de choses à faire.
Et finalement, en fait, toutes les découvertes, ou en tout cas hypothèses qui se sont vérifiées, se sont faites toutes très récemment, finalement.
Absolument, oui, et c'est pas fini.
Et c'est pas fini. Merci Jean-Paul Poirier pour cet éclairage sur le noyau terrestre. Donc, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre de l'Académie des sciences de la section des sciences de l'univers et que vous avez consacré une grande partie de votre carrière à l'étude de ce fameux noyau terrestre. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'en ai appris beaucoup et j'espère que les internautes aussi ont appris énormément. Merci donc de nous avoir écoutés. À très bientôt sur Canal Académie. Au revoir. Merci.
Merci.